Panneau d'exposition 2, la Villa Romaine de Vinamargo. Une première exploration des lieux. Les nouvelles villes romaines ont créé un modèle d'occupation du territoire basé sur la disposition de parcelles géométriques, semblables à une grille. On peut encore en distinguer sur certaines plaines côtières traversées par la Via Augusta. Fondée au milieu du 1er siècle, la Villa de Vinamargo faisait partie du territoire administratif de Saguntum, l'actuelle ville de Sagunto. Il se peut que les propriétaires de notre villa y résidaient. Le bâtiment s'est progressivement étendu d'est en ouest et a atteint sa splendeur maximale entre le 2e et le 3e siècle. Au milieu du 3e siècle, avec la crise qui touche l'Empire romain, le domaine va connaître de grandes transformations. Bien qu'il soit encore occupé pendant 2 siècles, il sera ensuite abandonné au milieu du 5e siècle. Quelque temps plus tard, surtout entre le 11e et le 15e siècle, certains espaces sont occupés de façon temporaire et plusieurs murs sont déconstruits afin de réutiliser les pierres pour une construction de proximité. C'est alors qu'apparaît le nom du hameau de Vinamargo, Alqueria de Vinamargo, notamment repéré dans certaines sources écrites. Parmi les vestiges conservés de nos jours, il y a les fondations des murs, constituées de pierres jointes avec de la terre. Sur ces fondations, on retrouve les murs de terre pétrie, construits avec la technique des banches de pisée. Dans les zones les plus luxueuses, ce pisée était recouvert d'un enduit de couleurs vives, du rouge, du jaune, du vert et du bleu. Certains espaces avaient plus d'un étage et les toits étaient recouverts de grandes tuiles plates, appelées tegulae. On les alternait avec des tuiles plus arrondies, appelées aussi imbrices. Les dépendances s'articulaient autour de plusieurs patios et, selon la structure romaine classique, on peut distinguer 3 parties. D'abord, la pars urbana, qui était l'espace le plus luxueux où résidaient les propriétaires. Ensuite, la pars rustica, qui désignait les aires domestiques, la cuisine, l'enclos, les latrines, le puits, etc., ainsi que les pièces où habitaient les travailleurs et les esclaves. Enfin, la pars fructuaria, qui était destinée à la transformation et au stockage des produits de la ferme. C'est là que se trouvaient les moulins à huile et les moulins à farine, les fours à céramique, les pressoirs à vin, les entrepôts, les autres greniers et enfin les fenils, où le foin est stocké. Examinons maintenant la première de ces zones, appelée la pars urbana.